La méga combi est très nombreuse.
Alors,
nous avons Jean Gab, Marco, Bibop, Naya, Flobé, Cobri, Luigi, Gribiche, Combi et moi-même Zébrilde. Donc aujourd'hui c'est Marco qui tire un papier. Vas-y.
Eh bien, le mot vainqueur est Valérie Giscard d'Estaing. Je vous remercie les copains.
Il était une fois une petite mélodie toute sympa, elle aimait bien se balader dans les rues. Les gens lui souriaient et parfois même sifflotaient. Jusqu'à ce que tout à coup une grosse basse débarque de nulle part. La basse en avait rien à foutre de cette petite mélodie, de rien du tout. C'est pas sérieux une mélodie alors qu'une grosse basse ça en impose. C'est pas sérieux une mélodie alors qu'une grosse basse ça force le respect. La mélodie n'avait pris de place et plus personne ne l'entendait. Elle était triste la mélodie. Alors elle alla voir un pote à elle pour l'aider à retrouver sa place. Son pote c'était l'arpeggiato. Finalement après une longue baston, la basse se dit qu'elle était quand même mieux avec cette mélodie que sans. Alors elle laissa la mélodie revenir.
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You better let your fellows get clean at the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 12 avril 2017. Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, on commencera par des actualités internationales. C'est la merde en RDC.
Et même en changeant de nom, le fabricant du taser peut-il se refaire une image ?
À Vaux-en-Velin aussi, finalement, le maire met des familles à la rue.
Un instant littéraire, on va reparler du bouquin La mécanique raciste de Pierre Thévagnon.
Histoire banale à Calais.
et une alternative libre apparemment à Twitter, suivi d'un agenda.
Et puis après, ça sera l'heure de la chronique Le Fil d'Ariane avec les avocates du Canu Info du mercredi qui sont là autour de cette table.
Et alors, vous pouvez nous présenter le thème ?
Ce sera sur le fichier des empreintes génétiques, fichier ADN.
Très bien.
Alors j'attaque avec les RDC parce que quand même c'est vraiment une sorte de grosse crise politique dont on ne sait pas bien où elle va nous mener. On n'en entend pas parler des masses. Alors est-ce que c'est parce que c'est un minuscule pays avec seulement 85 millions d'habitants ou est-ce que c'est peut-être parce que c'est l'Afrique ? Toujours est-il que en République démocratique du Congo, le président Kabila aurait dû, alors ça quand même on en a un peu entendu parler, aurait dû terminer son mandat. Il aurait dû terminer son mandat le 20 décembre dernier, mais il n'a pas vraiment organisé d'élection, et puis il n'a vraiment pas organisé d'élection, et puis alors qu'il est, il est toujours au pouvoir. Et l'opposition a quand même vraiment essayé de faire quelque chose, ça a quand même été assez le bordel pendant l'année 2016. Et puis finalement, tout ça aboutit à un accord qui a beaucoup été mené par les évêques qui ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer que ça se passe sans trop que les gens se tuent les uns les autres. Mais alors voilà, cet accord prévoyait que le pays devait être co-géré à partir du mois de janvier par le président qui lui resterait en place jusqu'à des élections organisées finalement à la fin de l'année 2017. Et un Premier ministre qui sera un Premier ministre issu de l'opposition. Finalement, le président Kabila a effectivement nommé un Premier ministre, mais il l'a seulement nommé vendredi dernier. Et puis, en termes d'opposants, il a surtout nommé un transfuge de l'opposition. Alors, un certain Bruno Tshibala, qui a 61 ans, qui a effectivement fait partie pendant longtemps du principal parti d'opposition. Mais alors, par exemple, l'Observateur Palga, qui est un journal burkinabé, mais qui est hyper intéressant sur des trucs d'analyse politique, lui, il n'hésite pas à dire que ce Tshibala est vraisemblablement une sorte de traître, et n'hésite pas même à sous-entendre que c'est peut-être un traître depuis un moment, en disant qu'à l'intérieur du parti d'opposition, il a déjà quand même passé beaucoup beaucoup de temps à foutre la merde avant de finalement être exclu de ce parti, et puis de rejoindre une espèce d'aile dissidente, mais qui en réalité est beaucoup plus proche du pouvoir. Donc voilà, c'est lui qui a été nommé Premier ministre, donc à la place de ce truc d'opposition par le président Kabila. Ça, c'était dimanche soir. Résultat, l'opposition a appelé pour lundi à une journée de manifestation. Et puis la manifestation ayant été interdite, finalement les gens ont flippé et ça a plutôt été une journée ville morte. Alors l'Observateur Palga toujours nous dit non seulement Mobutu Light, et donc là il est en train de parler de Kabila, confisque le pouvoir, mais il s'en prend aussi aux libertés publiques sous prétexte d'éviter la violence, alors que ce sont les actes mêmes qu'il pose qui font le lit de cette violence. Oui, c'est ça, parce que à cause de l'interdiction de la manifestation. Ainsi, en nommant un chef de gouvernement acquis à sa cause qui n'est autre que le Judas de service, Joseph Kabila est sorti du cadre de l'accord qui avait été signé avec les évêques. Et donc, ce qu'ajoute l'Observateur, c'est qu'il soupçonne aussi une tactique de la part du président Kabila. Et si c'était le cynique jeu auquel se livrait l'entêté locataire du Palais de la Nation, donc le président, créer les conditions objectives du chaos afin que l'organisation des élections générales ne demeure plus une priorité, que ce soit en décembre 2017, comme projeté par l'engagement de l'accord avec les évêques, ou en juin 2018, ainsi que le prévoyait l'accord qui, de toute façon, n'a jamais été signé par personne, l'accord d'Edem Kodjo, et que ces élections soient renvoyées, nous dit l'Observateur, aux calendes congolaises.
Alors, est-ce que le fabricant du taser peut-il se refaire une image ? Disons que quand, pour une marque, le fait de devenir un nom commun, c'est souvent très bénéfique, et ben pas...
Les fermetures éclair.
Ouais, et ben pas pour Taser là, qui est devenu Axon depuis jeudi 6 avril. Et donc ce changement de dénomination répond à un double objectif. D'abord l'utilisation par la police, vous voyez des Tasers là, les pistolets électriques qui fait l'objet d'une polémique, et donc si l'entreprise s'appelle plus Taser, ça permet de faire un peu oublier que c'est eux qui les construisent.
C'est vrai qu'ils ont un certain souci de leur image, parce qu'on se souvient qu'à Lyon, mais il y a déjà une petite dizaine d'années, il y avait eu le fameux Taser Festival, et qu'ils avaient essayé de l'interdire d'interdire que le nom soit utilisé comme ça, genre en faisant une sorte de référé juste avant le début du festival, mais ils avaient été, enfin ça n'avait pas marché.
Ça n'avait pas marché, non. Et donc, pourquoi c'est que le groupe qui est en Arizona là ne souhaite pas plus être associé à ce produit, on peut comprendre. Et mais c'est surtout parce qu'ils tentent de se diversifier, et ils se diversifient toujours pour la police, mais aussi vous voyez le gros business actuel de vente de données. Et il a une plateforme de stockage et d'analyse de données informatiques qu'ils ont créée il y a quelques années, donc qui s'appelle Axon, avec un logiciel qui a été conçu pour archiver, analyser et alimenter une base de données à partir des images transmises par des caméras corporelles utilisées par la police. En gros, ils disent, on va mettre plein de caméras corporelles sur les flics, ce qui évite les bavures policières. Et les armées de Taser également. Voilà. Donc ce groupe va axer aujourd'hui son développement sur l'intelligence artificielle aussi. Ils ont fait l'acquisition de personnes spécialisées dans le décryptage de la vidéo. Désormais, l'algorithme mis au point par Axon est capable d'analyser des vidéos en identifiant des individus, des objets et de retranscrire des témoignages en quelques minutes. Ce qui est quand même assez flippant en termes de capacité informatique actuelle. Et en plus de la surveillance permanente, se pose aussi donc la question de l'utilisation des données récoltées. Axon a promis, bien évidemment, de mettre sur pied un comité consultatif d'éthique dans sa propre boîte, donc qui doit veiller à la protection de la vie privée. Ce qui fait une bonne blague, parce qu'en fait, un comité d'éthique qui est payé par la même boîte privée, on se demande bien quelle éthique ils peuvent adopter, à part celle des bénéfices, mais bon, voilà. Alors, je sais pas, moi je trouve que c'est toujours intéressant de relayer ce genre d'infos, parce qu'on voit à quel niveau ils en sont aussi en termes de sécurité, puis de manière de développer leur technologie. Et ben, alors moi je me suis dit, plutôt que Axon comme nom, on pourrait proposer Taser 1984 Electric Murderer. Mais peut-être ça fait un peu long comme nom de multinationale, ou peut-être ça fait aussi un peu trop métalleux pour une entreprise cotée en bourse.
Depuis le 10 mars, depuis un mois, le collectif vaudois Jamais sans toi, Grand Clément, a pris en main le problème de l'hébergement de familles sans abri. Alors le collectif s'est d'abord adressé un peu partout au pouvoir public pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Mais comme tout le monde s'en foutait, la mairie, la préfecture, ils ont finalement décidé d'occuper un gymnase, le gymnase Paul Roux, et ils y sont allés à partir de jeudi dernier. Et donc la procédure, c'était celle-là, vous allez voir, c'était quand même vraiment pas très gênant. Ils arrivaient le soir à 21h avec du coup les gens du collectif et les familles, et tout le monde repartait à 8h du matin, ce qui ne faisait pas non plus exactement un logement pour les familles. Mais en tout cas, c'était déjà un endroit pour passer la nuit avec un toit. Et tout ça, c'était histoire de dit leur communiqué, de ne déranger ni les associations, ni l'école qui utilise le gymnase en journée. Ben voilà, ça aura duré 4 nuits, parce qu'ils ont commencé jeudi donc, mais lundi soir, à leur arrivée au gymnase, la police municipale était là, envoyée par le maire de Vaux-en-Velin, pour empêcher tout le monde de rentrer. Alors, bon, bien sûr, là, les gens, ils ont râlé, et puis c'est des habitants du quartier, des parents de l'école, des gens respectables, en quelque sorte. Et si bien que finalement, c'est les flics qui ont fini par appeler la mairie et deux élus se sont pointés pour répondre aux parents. Les parents qui, entre parenthèses, cherchaient à rencontrer ces deux élus depuis un mois, mais n'avaient pas réussi à avoir un rendez-vous. Et donc ces élus viennent signifier que les directives de la mairie sont de refuser l'accès du gymnase ou de tout autre local municipal à ces familles. Alors voilà, nous dit le collectif Jamais sans toi, la mairie a le pouvoir d'ouvrir des établissements en cas d'urgence. Visiblement, quatre gamins, dont deux qui ont 5 ans, et leurs parents qui dorment à la rue, ça, c'est pas un cas d'urgence.
Et la mécanique raciste de donc un bouquin de Pierre Thévagnan avec une postface de Saïd Bouamama est réédité aux éditions de La Découverte. Et du coup, pour vous donner envie de le lire, je vous le présente un peu. Donc tout le monde ou presque se dit antiraciste. Pourtant, les discriminations se perpétuent dans des proportions massives et en toute impunité. La mécanique raciste met à nu, chiffre à l'appui, cette remarquable contradiction, à rebours des discours complaisants faisant du racisme une simple pathologie individuelle ou un réflexe de peur de l'autre, naturel et compréhensible. Donc Pierre Thévagnan souligne son caractère systémique pardon, et son enracinement dans notre culture. Et alors la conclusion, pour continuer à capter de quel antiracisme on parle, c'est avec la conclusion qui s'intitule « En finir avec l'antiracisme d'État » et la postface de Saïd Bouamama qui s'intitule « De l'intégration compassionnelle à l'assimilation autoritaire ». Faut laisser infuser, mais bonne lecture.
Allez, une petite histoire calaisienne tirée du site, comme souvent, du site Passeur d'Hospitalité. Un peu avant 18h ce vendredi, quelques groupes sont déjà là, avant la distribution de repas. Au coin d'un terravac dans une zone industrielle des alentours de Calais, les bénévoles arrivent, s'installent, la distribution commence. Pas de police aujourd'hui, pour l'instant. Et puis si, une voiture de police arrive. Police nationale, commissariat central de Calais. Et puis une deuxième, un premier fourgon de CRS, puis un deuxième. La présence des policiers qui sont descendus de leur véhicule devient pesante. Plusieurs ont un gilet pare-balles, il y en a un qui a une gazeuse à la main, l'autre a sorti sa matraque. On se dit qu'ils ne sont pas simplement là pour regarder. Un peu après 19h30, un ordre, on se met en ligne et on avance. Les policiers avancent sans s'intéresser aux bénévoles. Les exilés partent plus ou moins rapidement, les policiers suivent jusqu'à ce que tout le monde ait disparu dans les buissons. Il n'y a pas vraiment de tentative d'arrestation, il s'agit clairement de la dispersion de l'attroupement que constitue la distribution de repas. Il s'agit donc d'une violation tout aussi claire de la décision du tribunal administratif de Lille dont on vous a parlé mercredi dernier, qui avait suspendu les arrêtés municipaux qui, eux, interdisaient la distribution dans cette zone. C'est-à-dire qu'avec toutes ces négations, que le tribunal administratif avait dit qu'on pouvait distribuer des repas dans cette zone. Les deux voitures du commissariat de Calais partent, restent les CRS. On les voit s'éloigner à nouveau de leur véhicule. Un groupe de quatre exilés, à l'évidence très jeunes, est en effet resté visible sur le chemin. Les CRS les entourent, des bénévoles arrivent. Les policiers procèdent là à un contrôle d'identité et prétendent agir sur réquisition du procureur couvrant cette zone et cet horaire visant des infractions au CESEDA, donc au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les quatre jeunes exilés, après des palpations de sécurité, ont été interrogés sur leur identité. Ils avaient tous 15 ou 16 ans. Après un long temps de palabres téléphoniques avec la hiérarchie, il leur a été laissé le choix, dans un anglais rudimentaire, entre être emmené par les policiers dans une maison avec des lits et des douches en dehors de Calais ou pouvoir s'en aller. Les quatre ont choisi de s'en aller. Alors en droit français, un mineur à la rue et un mineur qui n'est pas accompagné d'un adulte, c'est un mineur en danger que les autorités ont l'obligation de protéger. Mais face aux représentants de l'autorité, ces quatre mineurs-là ont bizarrement estimé que la rue était une meilleure protection.
Et une alternative libre à Twitter, c'est Mastodon. Alors en vrai, je ne sais pas si... c'est fameux, mais c'est une occasion de cracher un peu sur Twitter, ce qui est pas mal. Donc, c'est donc Mastodon, c'est le clone libre et décentralisé de Twitter qui accueille apparemment actuellement des dizaines de milliers de nouveaux membres chaque jour. Bon, pour rappel, Twitter, c'est un réseau social centralisé. Les données qu'on lui confie appartiennent à l'entreprise du même nom et vont sur les serveurs de l'entreprise du même nom. On y tweet publiquement de courts messages de 140 caractères avec photos, liens, etc. pour partager de brèves nouvelles, des impressions, etc. C'est souvent le lieu de l'info rapide, des échanges évanescents et des actualités brûlantes. Bref, en vrai, moi, j'ai pas envie de critiquer ce réseau social-là, mais plutôt la manière dont une société a des tonnes de données sur nous et que maintenant, les données sur les utilisateurs, ça se monnaie cher. Cette entreprise est cotée 18 milliards en bourse. Donc, c'est pas rien. Et donc, apparemment, Mastodon, c'est la liberté de ne pas dépendre d'une plateforme unique. Chacun peut monter son bout de réseau social fédéré Mastodon, choisisse de ne pas confier ses données et sa communication à une entreprise donc du Big Data. Et enfin, de découvrir comment... là, c'est de passer de 140 à 500 caractères, change la manière dont on pense, se comporte et communique avec autrui. Bon, j'imagine bien que les gens qui utilisent Twitter n'utilisent pas que Twitter, donc ça, c'est un argument discutable. Mais en tout cas, là, ils ont plein de serveurs différents, de groupes, on va dire, indépendants, qui s'engagent à traiter les données de manière confidentielle, etc. Et puis, pas de publicité, etc. Donc, ça se trouve, c'est une alternative intéressante à Twitter. Et un petit agenda où on sélectionne que quelques informations. C'est tout à fait subjectif. Donc, vendredi 21 avril, vendredi dans une semaine, il y aura le cabaret de La Fessée. La Fessée, c'est un groupe qui s'appelle Féministe en Cirque. C'est un cabaret post-apocalyptique en non-mixité meuf Gwyn Trans. Ça sera au Tutu avec un début à 20h pétante. Sinon, il y a l'autrice Lizzie Kraudegger qui va être à la librairie Terre des Livres au 86 rue de Marseille ce même week-end, là, le samedi 22 avril à 15h, pour qu'on vive un petit encerclement collectif. Donc on pourra lui faire dédicacer nos exemplaires d'une autobiographie transsexuelle avec des vampires ou de Enfants de Mars et de Vénus. Et voilà, donc n'hésitez pas à ramener vos exemplaires. Et Lizzie Kraudegger sera également présente sur les ondes donc de la plus rebelle des radios le vendredi 21 avril à 17h dans l'émission On n'est pas des cadeaux. Et sinon, ce samedi 15 avril, là je parle que de week-end cette fois-ci, il y aura au Rafio à partir de 12h le banquet des ingouvernables. Il faut ramener ses potes, ses plats cuisinés et ses envies de s'organiser. Et donc je vais vous lire un peu parce qu'il y a tout un texte contre les élections.
Et le Rafio, on sait ce que c'est ?
C'est un lieu, c'est un squat. Non, pour plus d'informations, lyoningouvernable@riseup.net. C'est pareil, vous voyez, je n'ai pas donné l'adresse du tutu. Vous pouvez écrire à Féministe en Cirque pour avoir l'adresse. Donc, au Rafio, ce samedi 15 avril, alors, c'est une occasion de se retrouver, donc, notamment pour parler de la campagne présidentielle qui se joue, interpelle tant par sa médiocrité que par le désintérêt qu'elle suscite. Rien n'est plus ordinaire que l'offensive à laquelle nous faisons face, cette offensive qui sature l'espace public et politique et qui nous dit « Allez voter, prenez part à cette vaste blague et soyez solidaires d'un système politique en décomposition ». L'argument du vote utile n'est jamais apparu aussi hypocrite. La démocratie brandit comme justification la montée d'un autoritarisme qui est la gangrène déjà. Voilà maintenant près d'un an et demi que l'état d'urgence a été décrété, octroyant toujours plus de pouvoir aux flics et restreignant dans le même mouvement nos libertés. L'antiterrorisme est devenu une forme de gouvernance et pour eux, la sécurité est la première de nos libertés. Aucun des candidats susceptibles d'accéder au pouvoir n'a prévu d'inverser cette tendance. Celles et ceux qui aspirent à nous gouverner, de quel bord qu'elles ou ils soient, seront les continuateurs des gouvernements précédents. Ils nous promettent toujours plus de précarité et toujours moins de liberté. Ils serviront toujours les intérêts de ceux qui nous exploitent et nous dominent. État d'urgence, xénophobie, dégradation de nos conditions de vie, d'études, réforme des retraites, du travail, ubérisation, flexisécurité, etc. sont leurs mots d'ordre communs. Leurs programmes auront les mêmes effets, accentuer les inégalités. Nous ne sommes plus dupes de cette mascarade électorale et nous ne sommes pas seuls, si l'on en croit le taux d'abstention en constante augmentation. Le vote ne suscite plus d'espoir, il est bien souvent le résultat de la peur suscitée par l'épouvantail fasciste que l'on ne cesse d'agiter sous nos yeux. Nous n'avons plus envie d'asseoir leur légitimité en votant contre un monstre qu'ils ont eux-mêmes fabriqué et dont ils s'inspirent de plus en plus. Face à leurs échéances et leurs échecs, nous voulons construire nos propres perspectives. Nous sommes déterminés à penser le politique hors des cadres démocratiques qui nous ont été imposés. C'est ici maintenant que nous voulons construire une réelle solidarité et créer les conditions de notre émancipation. Ce banquet donc de ce samedi 15 avril, ce banquet c'est d'abord une proposition de mise en commun à grande échelle de tout ce que nous habite en ce moment. Donc pour cela, nous invitons chacune des personnes ou des groupes intéressés à prendre très au sérieux cette invitation en préparant un petit quelque chose à partager, donc des textes renversants, entremets exquis, alcool frelaté, discours porteurs de fièvre et de folie, communicatrice, prochain rendez-vous ou toute autre proposition conspirative, des chansons, des cris de guerre, des formules magiques avec au bout au moins des petites parcelles de perception et d'ambiance commune, devenir ingouvernable, vivre à plein, foutre des grains de sable dans leur machine. Voilà, j'avais envie de lire un bout de ce petit texte qui donne envie de se bouger un peu.
Le tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable.
Juridiction.
Convocation.
Assignation. Assignation.
La procureure.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Convocation.
Incompétence.
Amiable.
Signalement.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Procureur.
La grande
institution.
Amphithéâtre.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Huissier.
Requête.
Récitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce soir, on va parler de fichiers et d'empreintes génétiques, mais en précisant dès maintenant qu'en fait, on va parler de ces questions-là que sous l'angle du droit pénal. On l'avait déjà évoqué un petit peu dans une autre émission, mais quand on parle d'empreintes génétiques, ça peut toucher d'autres aspects du droit, notamment le droit de la famille ou le droit des étrangers. Mais on ne va pas en parler ce soir. On va parler que sous l'angle du droit pénal et surtout, on ne va parler que d'un fichier. Le fichier qu'on appelle le FNAEG, c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, et on va parler que de celui-là parce qu'il y a plein de fichiers et que sur celui-là il y a déjà beaucoup de choses à dire.
Alors, qu'est-ce que le fichier national automatisé des empreintes génétiques ?
Alors, c'est un fichier qui a été créé en 1998. À la base, il était destiné uniquement, enfin, les personnes qui pouvaient faire l'objet d'un fichage étaient uniquement celles qui étaient condamnées ou mises en cause dans des affaires à caractère sexuel. Et puis, comme souvent, le nombre d'infractions concernées s'est élargi. Longtemps, ça n'était que les crimes. Et puis certains, maintenant, c'est certains délits. On reviendra un peu tout à l'heure sur la liste précisément des infractions pour lesquelles on peut être fiché. C'est un fichier qui centralise les empreintes génétiques, donc des personnes déclarées coupables de certaines infractions. Donc on va lister un peu plus long. Donc les personnes qui, pour le coup, ont été jugées coupables de ces faits-là. Des personnes pour lesquelles il existe des indices graves et concordants, rendant vraisemblable qu'elles aient commis ces mêmes infractions. Autrement dit, au cours d'une enquête, on peut considérer qu'une personne est mise en cause et que des indices graves et concordants font penser qu'elle pourrait avoir commis ces faits-là, et à ce moment-là, elle peut faire l'objet d'un prélèvement génétique, et il peut y avoir une fiche sur elle dans ce fameux fichier-là. Il peut y avoir également dans ce fichier les traces des personnes inconnues, alors notamment au cours d'enquêtes qui portent sur ces mêmes infractions, donc par exemple les crimes sexuels, je donne cet exemple-là, on reprendra sur les autres ensuite, et du coup il peut y avoir des traces qui traînent sur la scène du crime, et donc ces traces-là biologiques peuvent être inscrites dans le fichier, le fameux FNAEG. Et puis, il peut y avoir aussi les échantillons qui sont trouvés au moment où on enquête soit sur un cadavre inconnu, donc une personne dont on ignore l'identité, et soit sur quand on fait une enquête sur une personne qui a disparu de façon inquiétante. Donc à ce moment-là, il peut y avoir dans le cadre de cette enquête-là aussi prélèvement biologique et fichage au FNAEG. Et il peut y avoir également des échantillons qui peuvent être prélevés sur les personnes qui sont les ascendants ou les descendants de la personne qu'on recherche, mais dans ce cas-là, et c'est peut-être le seul de cas, il faut l'accord des personnes pour que ce soit le cas. Voilà, donc du coup, ça fait un nombre assez important de personnes qui peuvent être concernées, ou même de personnes ou de traces biologiques qui peuvent être concernées là-dessus. Étant précisé que le texte prévoit, donc c'est tout est prévu par le code de procédure pénale, prévoit que le nombre et la nature des segments d'ADN qui peuvent être prélevés sont limités. Alors j'avoue que je suis absolument pas biologiste, donc je ne sais pas trop de quoi il s'agit précisément, mais il y a un arrêté qui prévoit que seulement certains segments d'ADN qui peuvent être pris, notamment, alors je vous donne le premier, le D3S1358 qui est localisé sur le chromosome 3. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste. En fait, d'après ce que j'ai compris, mais sous réserve de ce qu'ont compris mes camarades, c'est qu'en fait, c'est uniquement pour identifier la personne, mais ça ne peut pas forcément donner plus d'indications sur son apparence physique, à part à la question du sexe, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prélever le chromosome X ou Y, mais c'est la seule chose. Donc, j'avoue que je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, mais voilà. En tout cas, c'est assez limité. Et il y a un arrêté qui liste précisément les segments qu'on peut prélever et qu'on peut donc garder en fichier.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Concrètement, quand est-ce qu'on peut prélever l'ADN? Pour quel type d'infraction on peut prélever cet ADN?
Alors, juste une petite précision face à ce que je disais tout à l'heure déjà, c'est pas forcément, il suffit pas d'avoir été condamné pour que le fichage soit fait, et puis avoir simplement une mise en cause lorsque, comme je disais, il y a des indices graves et concordants qui laissent penser que la personne a commis ces faits-là. J'ajoute juste, peut-être qu'on y reviendra, mais qu'on peut aussi se faire prélever l'ADN quand il y a des soupçons. Qu'il existe des raisons plausibles de penser qu'on aurait pu commettre ces faits-là. À ce moment-là, le prélèvement est fait pour comparer les empreintes génétiques qui sont de la personne avec celles qui figurent dans le fichier. Mais par contre, ces empreintes-là ne sont pas conservées dans le fichier. Autrement dit, le fait d'avoir été prélevé, enfin d'avoir fait l'objet d'un prélèvement ADN, signifie pas nécessairement qu'on est dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Du coup, on y reviendra tout à l'heure. On peut poser la question de savoir si on est oui ou non dans ce fichier-là. Mais le simple fait d'avoir été prélevé ne dit pas forcément qu'on est dans le fichier. Il faut qu'il y ait quand même, en principe, en tout cas, quelque chose de penser qu'il puisse y avoir des indices graves et concordants qui font qu'on est là-dessus. Mais donc, pas forcément une condamnation, mais en tout cas, au moins une mise en cause dans une de ces infractions. Alors, on va procéder à quelque chose qui peut être un peu fastidieux, à savoir qu'on va vous lister précisément toutes les infractions pour lesquelles on peut faire l'objet de ce fichage-là, parce qu'en fait, c'est aussi, même si elle est longue, c'est une liste limitative, et du coup, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement ou d'un fichage, surtout d'un fichage, quand on est hors de ces clous-là, de ces cadres-là. Et encore une fois, au départ, c'était vraiment limité uniquement à des crimes extrêmement graves. Maintenant, ça s'est élargi. Au début, d'ailleurs, c'était que des crimes sexuels, puis des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Et maintenant, c'est aussi des atteintes aux biens. Donc on voit bien que ça s'est élargi de plus en plus. N'empêche que si on ne rentre pas dans ce cadre-là, à ce moment-là, le prélèvement et le fichage est illégal. Alors, attention, donc les premières infractions pour lesquelles on peut centraliser les traces et empreintes génétiques sont les infractions de nature sexuelle. Elles sont assez nombreuses. C'est les crimes de meurtre ou d'assassinat. Lorsqu'ils sont commis sur un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de torture, d'actes de barbarie, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale. Les crimes de torture ou d'actes de barbarie. Les crimes de viol. Les délits d'agression sexuelle. Les délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur. Les délits et crimes de proxénétisme à l'égard d'un mineur. Les délits de recours à la prostitution d'un mineur. Le délit de corruption de mineur. Le délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de 15 ans, donc de moins de 15 ans, ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. les délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation, d'exportation, d'acquisition ou de détention d'images ou de représentation pornographique d'un mineur, donc tout ce qui est pédopornographie en termes d'images et de ça, ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image. Les délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de messages violents ou pornographiques, susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur. Le délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation. Les délits d'atteinte sexuelle.
Je continue la liste. Du coup, là, on est hors infraction de nature sexuelle. Donc, il y a aussi possibilité de prélever l'ADN pour les infractions qui relèvent de crimes contre l'humanité, les crimes et délits d'atteinte volontaire à la vie de la personne, de torture, actes de barbarie, les violences volontaires, les menaces d'atteinte aux personnes, trafic de stupéfiants, atteinte aux libertés de la personne, traite des êtres humains, proxénétisme, exploitation de la mendicité et mise en péril des mineurs. Ainsi que pour une autre catégorie, donc là on est sur les atteintes aux biens, crimes et délits de vol, extorsion, escroquerie, destruction, dégradation, détérioration pardon, et menace d'atteinte aux biens.
La liste n'est pas terminée. Il peut aussi, dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre.
Ensuite, il y a également les délits de trafic d'armes, à savoir la fabrication ou le commerce, la fabrication d'un explosif ou d'un produit destiné à entrer dans la composition d'un produit explosif. Enfin, il peut s'agir des infractions de recel ou de blanchiment, par exemple blanchiment d'argent. Voilà, donc là c'est une liste qui est limitative mais qui est quand même assez large. On voit d'ailleurs que s'agissant voilà, des atteintes à biens, crimes, délits de vol, d'extorsion, d'escroquerie, destruction, dégradation, là il y a quand même beaucoup de choses qui entrent dans ces infractions.
Et est-ce qu'on peut refuser de se faire prélever son ADN ?
Alors, sur le refus de prélèvement d'ADN, la réponse est oui mais non. On va le développer. Mais juste avant d'aller plus loin sur cette question, juste pour préciser que là, on parle du prélèvement sur une personne donc vivante et pas du prélèvement sur un objet ou sur une trace, parce que là, ça peut être différent. Et il y a juste une jurisprudence, enfin, donc un cas qui a pu se poser, qui me semble révélateur de la différenciation, là, en l'occurrence, et l'importance. C'est le cas où les policiers avaient prélevé sur un mégot de cigarette l'ADN de la personne qui avait consenti donc à la saisine de son mégot de cigarette mais pas au prélèvement de l'ADN, et la cour de cassation a considéré que c'est pas grave, il n'y a pas besoin de son consentement puisque c'était sur le mégot de la cigarette que ça avait été prélevé, ce à quoi elle avait accepté, elle avait accepté la saisine de ce mégot. Donc voilà, là je vais évoquer la question du prélèvement sur une personne
vivante. En fait on se croirait un peu dans une série d'un polar.
Du coup, là, la question du prélèvement sur une personne donc, est vivante. Alors, le principe, c'est que non, on ne peut pas, par la contrainte, prélever l'ADN sur une personne, sauf pour une situation, c'est celle qui est en fait assez large, c'est pour les personnes condamnées pour crimes ou délits, punies d'une peine d'emprisonnement de 10 ans maximum, peine encourue, ou alors reconnues irresponsables au niveau pénal, et sur réquisition écrite du procureur. Donc, dans ce cas-là, pour une personne condamnée pour une peine de 10 ans, pas encourue, mais condamnée pour une peine de 10 ans, et sur réquisition écrite du procureur. Dans ce cas-là, donc, la police peut passer outre le consentement de la personne et prendre par contrainte l'ADN. Dans les autres cas, la police, procureur, juge d'instruction ne peuvent pas passer outre, mais le fait de refuser est une infraction en tant que telle, punie par le code pénal. Donc une infraction en tant que telle est la peine encourue, donc la peine théorique maximale qui peut être prononcée par un tribunal ou une cour, est une peine de 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et si la personne fait l'objet d'une condamnation pour crime, la peine maximum encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Voilà, donc on a vraiment un délit en fait, donc une infraction distincte si on refuse de se faire prélever son ADN. Sur les peines, donc il y a des peines d'emprisonnement qui sont encourues, des peines d'amende, et puis il y a aussi pour les personnes déjà condamnées et qui exécutent une peine, il y a des conséquences prévues par le code qui sont le retrait de plein droit des réductions de peine, donc de façon automatique. Alors ça c'est ce qu'il y a dans la loi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des jurisprudences, donc des cours qui ont pris position en considérant que ce retrait automatique des réductions de peine peines étaient disproportionnées, notamment en visant une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On y reviendra un petit peu après si on a le temps. Voilà, donc parfois ce texte a pu être écarté, en tout cas le caractère automatique, mais voilà, on a une loi en tout cas qui prévoit cette possibilité. Donc sur le prélèvement et sur cette possibilité de refuser, je rappelle aussi que, parce que c'est une particularité du droit français, c'est qu'à la fois, c'est à la fois pour les personnes condamnées, mais pour les personnes suspectées aussi, donc on peut prélever l'ADN, et même ces personnes-là qui sont simplement mises en cause sur la base donc, de ces fameux indices graves ou concordants, peuvent, enfin, si elles refusent le prélèvement d'ADN, et même s'il n'y a pas de poursuite ensuite, peuvent être poursuivies pour avoir refusé qu'on leur prélève l'ADN. Donc c'est vraiment une infraction distincte, en fait, des autres infractions pour lesquelles on se retrouve soit en garde à vue, soit pour lesquelles on est condamné, et une infraction qui se rajoute aux infractions pour lesquelles, ou à l'infraction pour laquelle la personne est là. Avec des peines qui peuvent être prononcées donc, juste sur ce délit de refus de prélèvement d'ADN, et autre conséquence, comme on est sur un délit distinct, s'il y a une peine pour ce délit-là, c'est une peine qui va se cumuler avec les autres peines qui pourraient potentiellement être prononcées si la personne est poursuivie pour d'autres infractions. On peut aussi, autre cas et qui a pu se présenter en pratique, c'est être mis en garde à vue pour une infraction, refuser dans ce cadre-là le prélèvement ADN, ne pas être poursuivi pour les raisons pour lesquelles on avait été placé en garde à vue et être poursuivi juste pour le refus de prélèvement d'ADN. Donc voilà, les deux sont possibles, soit ils cumulent, soit ils poursuivent uniquement sur ce délit-là. Et dernière chose, qui me semble d'ailleurs critiquable en droit, mais voilà, c'est l'état du droit en tout cas actuel, c'est que c'est un délit qu'on appelle successif. Ça veut dire qu'en fait, le fait de refuser de se faire prélever son ADN est une infraction. Si vous êtes convoqué une fois, deux fois, trois fois à la police et que une fois, deux fois, trois fois, vous refusez le prélèvement d'ADN, ça fait trois infractions différentes. C'est pas le simple fait de refuser en général le prélèvement ADN, c'est à chaque fois qu'on refuse, ça caractérise une nouvelle infraction, donc ça peut faire l'objet d'une nouvelle poursuite en tant que telle. Voilà. Même si la position de principe de la personne était déjà connue, on peut multiplier comme ça les poursuites.
Dariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Donc, et comment l'ADN peut-il être prélevé alors du coup?
Du coup, je finis juste sur la... Pardon. Juste un dernier mot sur ce refus de prélèvement d'ADN. C'est qu'on le disait, donc on est... théoriquement, oui, on peut, mais en vrai, ben, c'est une infraction en tant que telle. Par contre, ce qu'il faut savoir, il y a quand même quelques pistes là-dessus, sur ce refus de prélèvement ADN, parce que la loi pénale, on considère qu'elle est d'interprétation stricte. Donc en fait, c'est vraiment une lecture littérale du code, et voilà, on ne peut pas élargir et étendre les textes en matière pénale. C'est un des principes de cette matière-là. Donc, on peut refuser et on ne doit pas être condamné si on refuse, si, par exemple, la prise d'ADN s'effectue dans un cadre qui excède le cadre prévu par la loi. Donc, c'est par exemple le cas, et pareil, ça a pu se poser en pratique, c'est qu'on va tenter de prendre l'ADN de quelqu'un alors qu'il est en garde à vue ou condamné pour un motif qui n'est pas prévu par la loi, donc pour une infraction qui n'est pas prévue par la loi. C'est pour ça qu'on a un peu listé tout à l'heure les infractions, c'est parce que c'est important, si on n'est pas dans ces infractions-là, et des fois ça se joue à un détail près, on n'a pas le droit de prélever l'ADN de la personne, elle ne peut pas être condamnée si elle refuse. Pareil, on parlait tout à l'heure du cas de l'ADN prélevé sur quelqu'un de condamné. Le parquet, il a seulement un an après l'exécution de la peine pour demander le prélèvement d'ADN de cette personne. Si on lui demande son ADN au-delà de ce délai, la personne est en droit de refuser aussi. Et puis, il y a une autre piste, qui est plus une piste de réflexion, et puis qui fait l'objet de débats devant les tribunaux. C'est pour les personnes qui ne sont pas condamnées et à qui on prélève leur ADN, voilà, sans condamnation, sur la base donc, de suspicion. Donc le texte dit « indice grave ou concordant suffisant, rendant vraisemblable que la personne a commis l'infraction ». C'est une notion qui est limitée, mais qui peut se discuter. Qu'est-ce qu'est un indice grave? Qu'est-ce qu'est un indice concordant? C'est l'un ou l'autre. Et voilà, est-ce que vraiment cet indice rendait vraisemblable que la personne avait commis l'infraction? Voilà, c'est aussi quelque chose qui peut se discuter devant un tribunal et qui peut amener à une relaxe sur le refus de prélèvement d'ADN si on démontre qu'en fait, la demande, elle était abusive, excessive, parce qu'on était en garde à vue et qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'indice comme ça qui permettait la garde à vue. Et dernière chose là-dessus, c'est aussi
là on parlait du texte national, mais c'est aussi une matière qui vient toucher un peu au droit européen, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui a pris position sur différents dossiers concernant différents États, dont la France. C'est un arrêt de 2013, MK, c'est des initiales de la personne contre France, et qui est intéressant parce que dans cet arrêt, la Cour dit « le fait de prendre des empreintes, c'est une ingérence dans la vie privée familiale d'une personne ». Elle considère que ça peut être dans un but légitime qui est la prévention des infractions pénales, mais elle se pose la question de est-ce que c'est nécessaire ou pas. Et dans cet arrêt-là, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en considérant qu'il... J'abrège pour aller... Ouais, je vais aller vite. La Cour a condamné la France en considérant qu'il y avait une disproportion par rapport au texte français, et le cas était intéressant, enfin révélateur en tout cas de la problématique de ce fichier. C'était le cas d'une personne qui s'était retrouvé en garde à vue pour un vol de livres. Cette infraction a été classée sans suite, donc elle n'avait pas fait l'objet de poursuite. Elle avait demandé l'effacement, puis on reviendra tout à l'heure sur la procédure pour faire ça, qui avait été refusée. Et du coup, la Cour européenne des droits de l'homme, elle met en balance différentes choses. Déjà, elle dit aux États, vous avez une marge d'appréciation qui est très stricte, parce qu'on touche à quelque chose qui relève de l'intime, vraiment de l'intime et de la vie privée et familiale, parce qu'on est quelque chose qui touche aussi à des fins policières, et donc un risque de stigmatisation derrière pour les personnes qui sont dans ce fichier, quand bien même le fichier dit bien qu'on n'a pas été condamné, on se retrouve dans un fichier de police et ça peut avoir des incidences pour la personne, y compris juste en termes de ressenti d'être dans ce fichier de police. Et donc elle rappelle qu'il faut un équilibre dans tous ces différents enjeux. Elle rappelle aussi que cette atteinte à la vie privée familiale, elle doit se justifier par des raisons, donc une nécessité, qui va aussi du coup renvoyer à la nature de l'infraction pour laquelle on est poursuivi et la gravité de l'infraction aussi pour laquelle on est poursuivi ou même condamnée. Elle regarde aussi, cet arrêt il est vraiment intéressant si vous voulez aller regarder, notamment les pages 13 et 14 sur le document de la Cour. Il est intéressant parce qu'elle vient aussi expliquer que la procédure en France, elle est lourde pour demander l'effacement et que ça aussi, elle le prend en compte, du coup, dans ce qu'elle va considérer, donc au final, après avoir pesé tout ça, comme une disproportion dans le cas qui lui était soumis, et donc condamner la France pour atteinte à la vie privée familiale de la personne.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et comment, dans quelles conditions l'ADN doit-il être prélevé ?
Alors là, c'est un peu du pratico-pratique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors, c'est l'officier de police judiciaire qui procède ou qui fait procéder sous son contrôle au prélèvement. Bien sûr, avant le contrôle, l'officier de police judiciaire peut quand même vérifier si les empreintes ont déjà été prises et sont déjà dans le fichier. L'OPJ, l'officier de police judiciaire, ou le procureur de la République, ou le juge de l'instruction, c'est un peu les trois figures qu'on rencontre souvent dans le cadre du prélèvement de l'ADN, peuvent requérir, c'est-à-dire peuvent demander à toute personne qui est habilitée à procéder au prélèvement, c'est-à-dire des personnes qui ont fait l'objet d'un agrément. Ces personnes ne doivent pas nécessairement être inscrites sur la liste d'experts judiciaires, ce qui peut d'ailleurs paraître un peu étonnant, sauf lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans ce cas, s'il ne s'agit pas d'experts judiciaires, ces personnes doivent prêter serment, et cela par écrit, en indiquant qu'elles prêtent serment pour apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Bon, c'est un peu des détails, mais voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles après on peut nous en tant que juristes vérifier que la procédure elle ait bien été respectée et que si elles ne font pas partie de cette liste d'experts judiciaires, il doit y avoir normalement un procès-verbal dans lequel la personne a bien prêté serment par écrit.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et une fois que l'ADN a été prélevé, qu'est-ce qui se passe ensuite avec ?
Alors ensuite, une fois que l'ADN est prélevé et s'il est conservé, parce qu'il y a effectivement des cas où l'ADN n'est pas conservé dans le fichier, il va dans ce fameux fichier automatisé, fichier qui est sous le contrôle, donc le texte dit d'un magistrat, donc après l'arrêté, donc le gouvernement a précisé que ça sera un magistrat du parquet qui gère ça, donc on n'a pas un magistrat du siège, comme on dit, concrètement c'est la direction centrale de la police judiciaire qui contrôle ce fichier. Et dans ce fichier, donc on aura prélèvement ADN, avec certaines mentions, et là aussi, encore une fois, la loi elle est d'interprétation stricte, donc il ne peut pas y avoir théoriquement autre chose que les mentions prévues par le code, qui sont bon, des choses administratives, le numéro de la procédure. Il faut aussi que dans ce fichier, il y ait le nom de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire qui a demandé l'enregistrement au fichier, la date de la demande d'enregistrement au fichier, ou la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Ça, c'est des éléments importants, parce que c'est ça qui permettra ensuite de calculer les délais de conservation qu'on va évoquer tout à l'heure. Il faut aussi qu'il y ait dans ce fichier, avec le prélèvement, le nom de la personne qui, habilitée, qui a réalisé l'analyse, et la nature de l'affaire. Aussi, lorsque ces éléments sont connus, dans ce fichier, il y aura le nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne, et la filiation des personnes, voilà, quand les empreintes sont enregistrées.
Alors, les empreintes, elles restent très, très, très longtemps dans ce fichier. Enfin, les renseignements dans ce fichier. Le principe, c'est 40 ans. Donc, lorsqu'il y a une condamnation, les empreintes sont enregistrées pendant 40 ans. Il y a l'hypothèse où les personnes n'ont pas été condamnées, mais elles ont été mises en cause. Donc, comme on le rappelait, lorsqu'il y a des indices graves et concordants, ça reste quand même 25 ans. Donc, sans condamnation, si vos empreintes ont été prises, ça reste 25 ans, sauf si l'effacement a été ordonné antérieurement. Et là encore, il ne faut pas oublier dans ces cas-là de demander l'effacement. Comme on le disait, on verra après la procédure pour demander l'effacement, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien s'assurer de demander. Alors, il y a également l'hypothèse où la personne elle n'a pas été condamnée parce qu'il y a un trouble mental. Dans ces cas-là, il n'y a pas eu de condamnation, mais les empreintes restent quand même 40 années. Donc on est quand même sur un délai relativement long, ça concerne parfois presque toute une vie. Lorsque la nécessité de l'enquête concerne l'enquête par rapport aux crimes et délits qui ont été cités en début d'émission l'exige, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avis du procureur, peut demander au service gestionnaire du fichier de procéder à cette comparaison entre l'empreinte génétique inconnue, qu'on ne connaît pas, et les empreintes génétiques qui sont enregistrées dans le fichier. Donc c'est soit le procureur de la République, soit le juge d'instruction. Le principe, c'est que, on rappelle quand même une petite garantie, il n'est pas censé y avoir de rapprochement ni aucune interconnexion entre le fichier, le FNAEG, et tout autre fichier, tout autre recueil de données nominatives. Mais alors attention, ces recueils de données nominatives détenus par une personne ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la Justice. Donc les autres recueils détenus par le ministère de la Justice peuvent, enfin, à contrario, il peut y avoir une connexion dans ces fichiers. Il y a une exception. Et là, c'est issu de la loi du 27 juillet 2015, la réforme sur la loi relative au renseignement, donc qui est assez récente. Pour les affaires de terrorisme, il peut y avoir interconnexion, rapprochement des différents recueils, des différents fichiers dont ont accès la police.
Le flic d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et du coup, dernière question, comment faire pour demander la rectification ou l'effacement des données qui sont dans ce fichier ?
Alors, comme tout fichier, en principe, c'est la loi de 78 sur la sécurité, les fichiers et la liberté. Informatique, fichier, liberté, qui prévoit qu'il y a un droit d'accès, de rectification et de suppression, un droit d'accès au fichier. Ce principe de droit d'accès, ça permet de confirmer qu'on est effectivement ou pas dans le fichier. De savoir à quoi sert ce fichier-là. Donc, en l'occurrence, le fichier le FNAEG, il a pour but de rechercher les auteurs, de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions et de communiquer les données qui sont précisément dans ce qui nous concerne dans le fichier. On peut avoir, ce droit d'accès, il prévoit aussi qu'on peut avoir une copie des données qui sont conservées dans ce fichier-là. Donc, comme tout fichier, on peut y avoir accès. Pour cela, il faut faire un courrier au directeur central de la police judiciaire avec une copie de la pièce d'identité. Je vous donne l'adresse, après c'est facile, il faut trouver sur internet. Je vous dis, je précise d'ailleurs, parce que je ne sais pas si beaucoup connaissent le site internet service-public.fr, qui est un site internet qu'on vous cite régulièrement, mais c'est vraiment une mine d'informations sur les aspects pratiques de certaines procédures, notamment procédures juridiques. En tout cas, si vous voulez savoir si vous êtes ou pas dans le FNAEG, vous pouvez écrire donc au directeur central de la police judiciaire, ministère de l'Intérieur, 11 rue Saucet, SAU2SAIES, 75 800, Paris CEDEX 08. S'il n'y a pas de réponse dans les deux mois, ou si c'est une réponse, c'est un refus, c'est-à-dire qu'on refuse de vous donner de vous indiquer si vous êtes dans le fichier et de vous communiquer les données qui vous concernent dans ce fichier-là, à ce moment-là, vous pouvez déposer plainte auprès de la CNIL, dont la Commission Nationale Informatique et Liberté, qui est un site internet sur lequel vous pouvez faire une plainte en ligne éventuellement, et du coup, ils peuvent enjoindre à l'administration de donner l'accès, enfin là, en l'occurrence, de donner les informations demandées. On peut également porter plainte au service de police et de gendarmerie. Voilà, choisissez votre option. Donc, si vous avez eu... Enfin, en principe, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils puissent refuser l'accès. J'imagine que le seul motif doit pouvoir être, parce que je n'ai pas revérifié ça, c'est si jamais vraiment il y a des atteintes à la sûreté de la nation, quelque chose comme ça. C'est des motifs assez classiques, mais en tout cas, a priori, si vous n'êtes pas poursuivi pour des faits de terrorisme, ça devrait être possible. Alors, sur la possibilité de rectification, en principe, c'est un principe général qu'on peut faire rectifier le fichier si jamais il y a des données erronées. Cela dit, j'ai rien trouvé de précis sur ce fichier-là en particulier. En tout cas, c'est l'article 40 de la loi de 78 que je citais tout à l'heure qui prévoit, mais je ne sais pas exactement en pratique comment il faut faire, sauf à ce que, effectivement, les données soient complètement erronées sur une date de naissance, ou autre chose. Mais en principe, on doit pouvoir faire rectifier le fichier, mais j'ai rien trouvé sur le FNAEG en particulier. Et surtout, la question de savoir comment pouvoir éventuellement se faire effacer du fichier. Alors, très clairement, ne peuvent demander leur effacement que les personnes qui n'ont pas été déclarées coupables. Donc autrement dit, si j'étais condamnée pour un des crimes, délits qu'on a cités, dont on a fait la liste tout à l'heure, je ne peux pas demander l'effacement du fichier. Ça n'est pas prévu par le texte et c'est explicitement vraiment prévu que pour les personnes qui n'ont été que mises en cause. Donc pour ces personnes-là, c'est 40 ans et point trait, il n'y a pas d'effacement possible. Ça peut, donc on peut uniquement demander l'effacement du fichier lorsqu'on a été mis en cause, mais pas déclaré coupable. Je recite l'exemple, parce que la précision, c'est que si on n'a pas été déclaré coupable en raison d'un trouble mental, on n'est pas concerné non plus. Donc en gros, j'avais toutes mes facultés, je n'ai pas été déclaré coupable. À ce moment-là, je peux demander l'effacement du fichier. Ça peut être fait d'office par la demande du procureur, du juge d'instruction ou du... l'officier de police judiciaire. Merci, cherchez le troisième. Ça peut aussi, et à mon avis c'est plutôt comme ça que ça se pratique, c'est fait à la demande de l'intéressé qui en fait une demande au procureur de la République, qui va décider si oui ou non c'est nécessaire ou pas de conserver ces informations-là. Autrement dit, tant qu'en fait l'affaire est en cours, il n'y a pas possibilité de demander l'effacement du fichier. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une décision définitive de la justice pour qu'on puisse se faire effacer du fichier. La demande, elle se fait au procureur, en principe, de la juridiction où a été menée la procédure, mais ça peut être également au procureur du domicile de la personne qui transmet à ce moment-là au procureur de la juridiction où ça a été mené. Par exemple, si j'y vais à Lyon et que l'enquête a eu lieu à Marseille, je peux demander au procureur de Lyon qui devra transmettre au service du parquet de Marseille. La demande, elle se fait par lettre recommandée avec accusé réception ou déclaration au greffe. Donc il faut se présenter au tribunal pour aller dire voilà, je voudrais l'effacement du fichier. Vous avez un formulaire SARFA toujours sur le site internet service-public.fr, dont je ne fais pas la publicité, mais il y a pas mal de choses, c'est en fait assez pratique, et en l'occurrence c'est le cas, donc qui permet en fait d'avoir un modèle qui permet de le remplir assez facilement. Après, ça peut être fait sur lettre simple, mais ça permet au moins de le faire simplement. Le procureur ensuite a 3 mois pour répondre. S'il répond pas dans les 3 mois ou s'il répond négativement, à ce moment-là, il y a un délai de 10 jours pendant lequel on peut saisir le juge des libertés de la détention. C'est quand même un délai très court, c'est-à-dire qu'il faut se noter, attention, dans 3 mois, si j'ai pas de réponse, après j'ai 10 jours pour saisir le juge des libertés de la détention. Pareil, lettre recommandée avec accusé réception ou greffe. Et la décision du juge sera notifiée par courrier recommandé avec accusé réception. J'ai l'impression qu'a priori, ils peuvent recueillir les observations du procureur, mais il n'y a pas d'audience particulière, semble-t-il. En tout cas, ça ne m'a pas paru à la lecture des textes. Si le juge des libertés de la détention refuse ou s'il n'y a pas eu d'ordonnance dans les 2 mois, donc le juge a 2 mois pour se prononcer, le procureur en a 3, le juge en a 2, un recours peut être fait, pareil, délai de 10 jours, donc délai très court, devant le président de la chambre de l'instruction, qui, lui, pour faire ceci, a un... Enfin, pour faire ce recours devant le président de la chambre de l'instruction, il faut motiver son recours. C'est-à-dire que jusqu'ici, il n'y avait pas besoin de donner les motifs des raisons pour lesquelles on demandait l'effacement. Par contre, si on fait un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention, il faut donner les motifs pour lesquels on fait ce recours-là. Et précision aussi, si le juge des libertés et de la détention prononce l'effacement, donc donne une décision positive pour la personne qui le demande, le parquet peut faire appel, pareil, dans le même délai de 10 jours, et c'est un appel qui est suspensif. Autrement dit, même si le juge a décidé qu'il fallait effacer, tant que le parquet a fait appel, la décision n'est pas effective dans les faits. Et enfin, le président de la chambre de l'instruction a lui-même un délai de 3 mois pour se prononcer sur la demande qui a été faite. Donc, les étapes, c'est d'abord le procureur. Le procureur a 3 mois pour répondre. S'il répond pas ou s'il répond négativement, 10 jours pour faire appel devant le juge, enfin pour faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, qui lui a 2 mois pour répondre. Si pas de réponse ou réponse négative, pareil, 10 jours pour faire appel devant le président de la chambre de l'instruction, qui lui ensuite peut rendre son ordonnance dans un délai de 3 mois. Après, il y a potentiellement recours en cassation, mais enfin, je veux dire, là, on commence à aller assez loin. En tout cas, pour toutes ces étapes-là, vous trouvez les formulaires sur le site service-public.fr, qui d'ailleurs explicite assez clairement les démarches à faire, mais c'est vrai que c'est toujours bon à savoir.
D'ailleurs, juste pour terminer sur cette procédure, la Cour, dans ce fameux arrêt MK contre France, dit quelque chose que je trouve rigolo dans la formulation. Elle constate que cette procédure, donc, a des chances de succès pour le moins hypothétiques. C'est la Cour européenne des droits